Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un des aspects peut-être les plus compliqués de cette économie, à ce qui détermine le fonctionnement au quotidien des marchés financiers et ce qui en détermine le fonctionnement au-delà du comportement des entrepreneurs, des banquiers, des consommateurs. C'est une science que beaucoup considèrent comme difficilement compréhensible, la science mathématique. Quel rôle joue cette science et ceux qui la maîtrisent dans le fonctionnement des marchés financiers et dans la détermination des prix? C'est le thème de cette émission que j'ai intitulée « Les mathématiques, la finance et le prix des choses » à laquelle participent trois invités. D'abord vous, Nicolas Boulot, bonjour.
Bonjour.
Nicolas Boulot, vous êtes mathématicien et philosophe, professeur émérite à l'école des ponts Paris Tech, où vous avez dirigé pendant 10 ans le centre de mathématiques, qui fut un des premiers en France à travailler sur les nouvelles méthodes de la finance. Vous venez de publier aux éditions de l'Atelier un livre intitulé « Le mensonge de la finance », sous-titre « Les mathématiques, le signal prix et la planète ». Et avec vous dans ce studio, l'économiste Didier Marteau. Bonjour monsieur Marteau.
Bonjour.
Didier Marteau, vous êtes professeur d'économie à l'ESCP Europe, une des grandes écoles de commerce de Paris. Vous y enseignez l'économie monétaire et les marchés de capitaux. Vous avez publié tout récemment avec le professeur Yves Simon un livre intitulé « Marchés dérivés de matières premières » aux éditions Economica. Je termine ce premier tour de table par vous, Christian Walter. Bonjour.
Bonjour.
Christian Walter, vous êtes titulaire de la chaire éthique et finance au Collège d'études mondiales de la Fondation Maison des sciences de l'homme. Vous savez de quoi vous parlez en matière de mathématiques puisque vous êtes actuaire agrégé. Dites-nous ce que c'est que cet actuaire, ce métier d'actuaire.
Un actuaire, c'est quelqu'un qui travaille sur le hasard et dont l'activité professionnelle est simplement de transformer les futurs contingents, les aléas, l'incertitude, en impact financier. Autrement dit, on mobilise deux choses qui sont l'incertitude, le hasard, l'aléa et le temps. Et on obtient quelque chose qui ressemble à de l'argent.
Donc vous travaillez dans les banques, dans les compagnies d'assurance?
Alors typiquement, l'actuaire est celui qui peut se retrouver dans des assurances, dans des banques ou aussi sur des questions environnementales. Par exemple, moi je fais partie de l'association Actuaire International et au comité scientifique de laquelle j'appartiens, en charge des questions sur les ressources et l'environnement. Donc là aussi, on a des enjeux sur les aléas qu'on essaye de mesurer avec des modèles pour saisir le phénomène du hasard environnemental ou climatique.
Transformer le hasard en espèce sonnante et trébuchante, ça peut sembler compliqué, mais il n'y a pas de question complexe qui ne puisse s'expliquer simplement. Et pour nous aider à le faire dans cette émission, il y aura des reportages. Nous irons au Costa Rica où nous attend Léa Morillon, au Burkina Faso pour retrouver Yaya Boudani. Nous plongerons aussi dans les archives de RFI. Je ne vous en dis pas plus. Nicolas Boulot, quel rôle jouent les mathématiques dans la finance mondiale aujourd'hui?
Alors c'est une question assez curieuse en fait que le monde et l'économie mondiale soient, on peut dire, pilotés par une institution dont le fonctionnement est si savant. On peut considérer que la finance contemporaine c'est aussi difficile mathématiquement que la mécanique quantique. C'est ce qu'on appelle la théorie mathématique de l'arbitrage. Arbitrage, dans ces milieux, ça veut pas dire...
Arbitre de foot?
Non.
C'est pas ça?
Non. Non. Un arbitrage, c'est un profit sans risque. C'est-à-dire qu'on a trouvé, entre deux grandeurs, une différence de prix dont on peut tirer parti. Et la théorie mathématique de l'arbitrage, c'est une théorie des marchés parfaits dans lesquels, justement, les arbitrages ne sont pas possibles. Et donc la grande question pour suivre votre interrogation, c'est de savoir comment se fait-il qu'il y ait une science si savante en finance, et comment ça s'est fait historiquement. Ça peut se raconter assez facilement.
Alors, je vais d'abord poser la question à Didier Marteau et à Christian Walter. Oui. Quel rôle joue selon eux, selon vous, messieurs, la science mathématique en finance, Christian Walter ?
Ce qui est frappant, c'est d'observer à quel point la présence de structures mathématiques existe et irrigue des systèmes que l'on pense connaître. C'est-à-dire que sous beaucoup d'opérations en économie, on peut se passer des mathématiques, acheter une voiture, vendre un appartement, mais il n'y a pas de finance sans calcul mathématique. De manière assez classique, la finance, c'est l'association entre du droit et des maths. Un instrument en finance, c'est d'abord un contrat, donc une écriture juridique, et ensuite un calcul, donc une écriture mathématique. Et finalement, ce que l'on fait en finance, c'est qu'on écrit le probable, une écriture juridique du probable par des contrats, des normes ou des réglementations, et une écriture mathématique du probable par des modèles probabilistes qui cherchent à saisir, comme je le disais tout à l'heure,
le
futur contingent, le hasard. Autrement dit, le hasard est transformé juridiquement en instrument, en normes et en réglementations. Et ceci est un système qui est très présent, peut-être caché, mais en tout cas très prégnant dans le monde actuel.
Par exemple ?
Si on pense aux réglementations internationales qu'on appelle couramment les accords de Bâle, du nom de la ville suisse de Bâle,
soit qui réglementent les politiques bancaires,
voilà, ou le montant minimum de capital à détenir pour une banque quand elle fait ses crédits, ces accords de Bâle, soit dans la version Bâle 2 ou Bâle 3, instrumentent ou utilisent ou mettent en œuvre une très puissante infrastructure mathématique dans le calcul des capitaux que les banques doivent détenir quand elles font un crédit, même à un particulier.
Mais qu'est-ce que vous appelez une très puissante infrastructure mathématique ?
Concrètement, ça veut dire que si on fait un crédit à un particulier ou une entreprise, on doit pouvoir expliquer à un régulateur qu'il y a un montant de fonds propres à détenir, et ce montant est obtenu par une formule mathématique assez complexe, qui fait intervenir des hypothèses sur le hasard.
D'ailleurs, le hasard, ce sont les risques, c'est l'évolution du profil de revenu de la personne à laquelle on prête de l'argent.
Par exemple, le hasard, ici, ça va être le risque que le crédit soit pas remboursé, le risque de défaut, par exemple. Et donc, on aura des probabilités de défaut, on aura aussi des questions liées au recouvrement des créances. Tous ces événements contingents vont être mis en équation par des perspectives probabilistes.
Alors, quand je reviens à la question que je vous posais, une très puissante infrastructure mathématique, ça veut dire beaucoup d'ordinateurs, ça veut dire quoi ? Ou est-ce que ce sont simplement des cerveaux, comme les vôtres, messieurs, qui sont en train de composer, d'utiliser des équations ?
Ça joue à plusieurs niveaux. Il y a d'abord un niveau, on va dire général, de vision du monde. Comment est-ce que les régulateurs, les banquiers, les financiers se représentent le hasard qui est face à eux ? Risque de crédit, risque de marché, risque d'investissement, risque environnemental. Ensuite, comment est-ce qu'ils le modélisent ? Qu'est-ce qu'ils font comme choix d'hypothèse pour des modèles mathématiques du hasard ? Et enfin, comment est-ce que les machines le font passer dans les calculs quotidiens. Et à la fin, il y a un impact sur l'économie, puisque selon ces modèles mathématiques, il y aura ou non des possibilités de faire des choses.
Didier Marteau.
Oui, moi je voudrais apporter une réponse complémentaire de celles qui ont été données, de nature en fait politique. Parce qu'au fond, je crois aussi que les mathématiques sont devenues un outil formidable d'asymétrie d'information et d'expertise sur les marchés financiers dont ont beaucoup profité les opérateurs de marché, c'est-à-dire ceux qui fabriquent les produits structurés.
L'asymétrie, vous voulez dire que tout le monde n'a pas la même info.
Asymétrie d'information entre ceux qui fabriquent ces produits, ceux qui sont chargés de contrôler leur évaluation, de contrôler les risques, voire de réguler les marchés. Et quand je parle de contrôleur des risques, je parle aussi bien d'auditeurs internes que d'auditeurs externes. Et je voudrais vous donner un simple exemple. Les produits dont on parle sophistiqués, qui en fait font recours à des méthodes probabilistes compliquées pour les évaluer, doivent être enregistrés en comptabilité à la fin de chaque exercice comptable. Les banques qui détiennent ces produits doivent les évaluer. Je donne un un seul chiffre, Goldman Sachs a par exemple 600 milliards de dollars d'actifs dérivés structurés qu'elle doit valoriser chaque trimestre lorsqu'elle fait son résultat. Comment valoriser ce produit? Il y a deux manières en fait. Eh bien, soit le prix de marché, c'est-à-dire que les produits qui sont détenus par la banque sont cotés sur un marché, et même si un prix de marché est imperfectible, est perfectible, on pourra en discuter, c'est au moins un prix observable, c'est un prix contrôlable par un auditeur externe. Et puis en fait, un prix qui s'appelle un prix de modèle. Et là, on revient vers notre sujet. C'est-à-dire que si l'actif n'est pas coté sur un marché financier, eh bien, on demande à la banque de faire sa propre évaluation à partir d'un modèle. Et donc, cette évaluation va être validée ou non par un auditeur externe.
Juste un point pour dire que moi, je pense que c'est beaucoup plus simple. Là, on parle de choses complexes. Mais même quand vous allez au bout de la rue à votre agence pour demander un crédit pour un appartement, on n'est pas dans les systèmes complexes, là. La structure mathématique est présente dans cette opération élémentaire de crédit, même à la consommation, pour acheter un frigidaire. Moi, je parle surtout de cet aspect-là, pas des produits structurés complexes.
Nicolas Boulot.
Oui, je pense qu'il faut clarifier en disant que il y a beaucoup de mathématiques en finance, mais la frontière de l'activité financière est très vaste et très floue. Et dans le livre dont nous parlons, le livre que je viens de publier, je me focalise sur le fonctionnement des marchés financiers, qui est un peu le cœur et le sommet de la montagne financière, si vous voulez. Et c'est là qu'il s'est produit historiquement un phénomène assez curieux, c'est qu'il y a eu une sorte de tunnel scientifique pendant environ 70 ans, c'est-à-dire que les mathématiciens ont développé des outils complètement indépendamment de la finance, et que dans les années 70, effectivement, la finance a trouvé dans ces outils exactement ce qu'elle souhaitait. Et donc, il y a eu cette convergence très curieuse entre des travaux mathématiques qui, en fait, n'avaient pas de rapport du tout avec l'économie, mais qui étaient d'un niveau d'abstraction assez curieux et qui conduisent à ce fameux... je ne sais pas si nos auditeurs en ont entendu parler, mais ce calcul différentiel nouveau qui s'appelle le calcul d'Itô et qui est...
Je pense que la plupart de nos auditeurs n'en ont jamais entendu parler.
Eh bien, justement, c'est un des traits intéressants, c'est que les traders dans toutes les places financières se servent de ces outils.
Du calcul d'Itô.
Oui. Dont personne...
Je ne vous demanderai pas de nous l'expliquer.
Non, on ne va pas l'expliquer ici, mais simplement, cette prise de conscience est quand même assez intéressante d'un point de vue politique. C'est que ni l'homme de la rue, mais ni même le député, ni même beaucoup d'économistes ne savent ce que c'est que le calcul d'Itô, qui pourtant est au cœur du fonctionnement des marchés financiers. Donc ça mesure, si vous voulez, l'écart qu'il y a entre ce qu'on peut comprendre et sur lequel la politique peut agir et ce qui se passe vraiment sur les marchés.
Didier Marteau, on est dans l'obscurité totale ?
Oui, ça rejoint mon propos sur l'asymétrie d'expertise entre les opérateurs de marché d'une part et ceux qui sont chargés de contrôler.
Et ça concerne aussi les marchés de matières premières, par exemple ?
Oui, parce qu'en fait, les produits dérivés ont différents sous-jacents. Il y a des produits dérivés...
Alors, un produit dérivé, qu'est-ce que c'est ?
Alors, c'est un produit financier qui est construit sur un produit simple, si vous préférez. C'est-à-dire que, en gros, le produit simple, c'est une action, c'est une obligation, c'est du blé, si je parle matière première, comptant, vendu, acheté en Sologne. Et le produit dérivé, si vous voulez, donc ce sont des Lego, et le produit dérivé, ça va être l'hélicoptère que vous fabriquez à partir des Lego simples. Donc, le produit dérivé, ça va être des options sur le blé, des swaps climatiques, j'en parlais tout à l'heure, ça peut être des contrats à terme sur des obligations. Donc c'est tout ce qui est construit à partir de produits simples et qui fait justement appel, Nicolas Boulot le disait tout à l'heure et Christian Walter, à des mathématiques probabilistes compliquées.
Alors un exemple, c'est ce qui se passe peut-être sur le marché du coton au Burkina Faso. Les chiffres officiels de la campagne 2017-2018 ne sont pas encore connus, mais les sociétés cotonnières ont les yeux fixés sur le cours des marchés mondiaux en fonction d'un prix de référence calculé à partir du marché à terme de New York. La fibre de coton est vendue aux acheteurs par anticipation, ce qui permet aux sociétés cotonnières de faire de plus ou moins bonnes affaires. Écoutez ce reportage éco d'ici éco d'ailleurs, signé Yaya Boudani à Ouagadougou.
Malgré une pluviométrie peu favorable, la production prévisionnelle est de 731 000 tonnes de coton graines selon les chiffres de l'association interprofessionnelle du coton au Burkina. Les 19 usines d'égrainage tournent. Pendant ce temps, les responsables commerciaux des sociétés cotonnières font le guet sur le marché pour obtenir les meilleurs prix Ali Compaoré est le directeur général de la société cotonnière du Gourma.
Pour ce qui nous concerne, les cours que nous observons actuellement, on peut dire que, en tout cas, c'est des niveaux acceptables. On va dire que depuis 2 années maintenant, on observe une embellie, en tout cas au niveau du cours mondial donc du coton.
L'association interprofessionnelle du coton au Burkina a mis en place un système de détermination d'un prix de référence pour la société cotonnière. Et c'est en fonction de ce prix de référence que les négociations sont conduites avec les acheteurs. Idrissa Sinou est l'économiste de l'AICB.
Étant donné qu'au niveau du Burkina, nous avons adopté de fixer le prix d'achat du coton grano producteur en tenant compte des cours mondiaux de la fibre, les sociétés cotonnières essaient, dans une certaine mesure, d'optimiser leurs ventes de fibres en tenant compte de la méthode de fixation, de calcul du prix de référence de la fibre qui détermine du même coup le prix d'achat du coton graine aux producteurs de coton.
Les prix étant connus d'avance sur le marché, les sociétés cotonnières ne disposent véritablement pas de marge pour négocier des tarifs plus importants.
La marge de négociation est faible parce que le prix est connu par tous les traders. La référence, donc, c'est New York. Et donc, on a de petites marges de manœuvre en fonction donc du client, en fonction de la qualité du coton qu'on offre. Mais de l'origine, parce qu'il faut savoir aussi que l'origine compte beaucoup.
Plusieurs facteurs non contrôlés par les sociétés cotonnières du Burkina influencent parfois le cours des marchés, selon Ali Compaoré.
Souvent, vous avez un marché de coton qui se comporte bien et malheureusement un cours de dollar donc, qui ne permet pas donc, une bonne valorisation, comme vous avez souvent un marché donc, qui est à la baisse, mais avec un dollar favorable et qui permet donc de mieux valoriser donc, le produit.
Pour l'économiste de l'association interprofessionnelle du coton au Burkina, la vente de la fibre de coton à un prix moyen inférieur au prix de référence déterminé aurait des conséquences désastreuses sur les sociétés cotonnières.
Un reportage signé Yaya Boudani à Ouagadougou, au Burkina Faso, dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI, émission intitulée « Les mathématiques, la finance et le prix des choses », avec 3 invités, Nicolas Boulot, Christian Walter et Didier Marteau. Nicolas Boulot, ce marché du coton, est-ce qu'il peut être emblématique du rôle des mathématiques dans la finance?
Tout à fait. Sans rentrer dans les détails de cette mathématique très savante, je pense qu'il est intéressant d'apporter quelques idées simples qui font comprendre comment fonctionnent ces marchés qu'on peut appeler spéculatifs. Ça veut dire quoi? C'est des marchés sur lesquels on peut acheter et vendre immédiatement, rapidement, presque autant qu'on veut. C'est très différent de certains autres marchés comme l'immobilier ou le marché du travail qui ont une inscription sociale profonde. Là, ce sont des marchés qu'on peut appeler spéculatifs. Et dans ces marchés-là, il n'y a pas de tendance. Parce que si une tendance était objectivement observable, par le jeu des achats et des ventes, des profits seraient possibles. Si, par exemple, on voyait que le cours montait de façon claire, les gens achèteraient. Et donc, en vérité, le prix changerait, on ne verrait plus cette tendance. Donc, ce sont des marchés qui sont agités. On peut résumer ce que la théorie mathématique de l'arbitrage enseigne.
Rappelez-nous ce que c'est que l'arbitrage.
Alors, l'arbitrage, je le redis, c'est la théorie mathématique de l'arbitrage, c'est la théorie des marchés où les arbitrages ne sont pas possibles. Un arbitrage, c'est trouver entre 2 grandeurs financières des prix différents qui permettent de faire un profit sans risque. Et donc, la théorie mathématique de l'arbitrage, c'est la théorie des marchés où les arbitrages sont impossibles. Et dans ces marchés-là, on peut dire que ce sont des marchés d'opinion, comme tous les marchés, avec simplement le fait qu'il s'agite, il y a de la volatilité.
La volatilité, Didier Marteau, c'est le mot-clé dans ces marchés. Est-ce que les maths y jouent un rôle?
Oui, bien sûr. Je voudrais juste revenir sur ce que disait Nicolas Boulot. Sur les marchés de matières premières, il y a en fait 2 grands compartiments, pour être simple. Il y a le marché comptant sur lequel on achète et on vend physiquement de la matière première à un prix qui est fixé instantanément et un règlement instantané. Et puis il y a, et c'était la référence de Nicolas, il y a en fait les marchés à terme de matières premières qui sont ce qu'on appelle des marchés de papier sur lesquels s'achètent et se vendent des contrats d'achat dans le futur à un prix fixé aujourd'hui de matières premières. Et donc là, il n'y a pas de flux monétaire instantané. C'est-à-dire, moi, si je veux acheter 100 000 tonnes de blé en tant qu'individu, je peux le faire faire en opérant sur, en Europe, par exemple, le marché Euronext, sur lequel on cote à terme le blé. Je m'engage à acheter 100 tonnes de blé dans 3 mois, à 160 euros tonne, imaginons, qui est le prix à terme. Et puis, évidemment, je vais revendre mon contrat papier avant l'échéance. Si le prix a monté, eh bien, je vais gagner la différence. Si le prix a baissé, je vais perdre la différence. Et en effet, sur ces marchés à terme, sont arrivés des opérateurs qui, finalement, ont utilisé leurs anticipations pour spéculer. C'est-à-dire, si moi, je pense que le prix du coton va monter, je vais acheter à terme le coton. Je ne vais pas l'acheter physiquement, le stocker chez moi, ce serait un peu compliqué. Donc ces marchés à terme permettent aux spéculateurs d'arriver.
Pardon. Oui, Nicolas Boulot.
Je pense que pour bien faire comprendre, les mathématiques dans les marchés, la grande question, c'est de savoir si les marchés suivent cette théorie mathématique ou pas, n'est-ce pas? C'est ça la grande question, c'est ça que tout le monde se pose. Et alors, là, je pense que y a un phénomène quand même plus récent qui s'est superposé à la création des marchés dérivés, etc., c'est la professionnalisation de la spéculation. Si vous voulez, je pense que à partir du moment où la spéculation se perfectionne, c'est-à-dire utilise toutes les techniques informatiques contemporaines, les algorithmes d'apprentissage, le trading haute fréquence et tous ces outils nouveaux, à ce moment-là, il y a une conformation des marchés vers ce que dit la théorie mathématique. C'est-à-dire que la théorie mathématique, elle décrit des marchés parfaits dans lesquels la spéculation objective n'est pas possible. Mais plus il y a de spéculation et plus on va vers ces marchés. C'est pas du tout paradoxal. C'est bien naturel, au contraire. Et alors, la puissance des ordinateurs, des big data, la puissance de l'interprétation même des actions politiques et économiques fait que les marchés sont vraiment poussés par la spéculation vers une structuration mathématique.
Christian Walter.
Oui, moi je pense qu'il faudrait revenir à des choses simples pour nos auditeurs. L'arbitrage, en soi, n'est pas quelque chose d'absurde. À la base, qu'est-ce que c'est? Autrefois, à l'époque des bourses nationales et avant les marchés mondialisés, une même société française pouvait, pour diverses raisons, être cotée à la fois à la bourse de Paris et à celle de New York. C'était la même société. Donc, a priori, le prix de cette société, son action, devait être le même, puisque l'objet même sur lequel portait le prix, autrement dit la société, était le même. Donc, qu'est-ce qui se passait? Si parfois on observait que pour des raisons bizarres, le prix de l'action de cette société à Paris n'était pas le même qu'à New York, on se disait, c'est bizarre, quelque chose ne marche pas. Il n'y a pas de raison pour que le prix d'une société donnée existante, celle que l'on voit, soit différent à Paris et à New York. Et donc là, on pouvait faire ce qu'on appelle justement un arbitrage, c'est-à-dire quelque chose qui, considérant l'écart de prix, aller acheter une action à Paris, par exemple, et puis la vendre à New York ou réciproquement. Donc on voit que l'arbitrage est quelque chose de naturel, et ça consiste juste à pouvoir saisir des anomalies qui se présentent dans des systèmes économiques quelconques. Donc le problème n'est pas là. Oui, le problème, c'est que ensuite, sur cette idée simple d'arbitrage, on a imaginé une théorie mathématique qui reposait sur une manière particulière de penser le hasard, les aléas des cotations ou des prix, et qui là, effectivement, comme on l'a dit, a posé des problèmes ensuite pour les conséquences qu'elle a eues, dont on parlait juste avant.
Et alors, parmi les conséquences, peut-être y a-t-il cette énorme crise financière et économique qu'on a connue il y a 10 ans. Elle a été provoquée en partie par l'explosion de la bulle des subprimes, des prêts immobiliers risqués, hasardeux. À Wall Street, c'est la panique. Écoutez cet extrait d'un reportage diffusé au mois d'octobre 2008 et signé Muriel Paradon sur RFI.
C'est la clôture à Wall Street, la principale bourse de New York. Il est 16h, lundi 13 octobre. Après un vendredi noir la semaine précédente, les valeurs des entreprises cotées font une remontée spectaculaire. Dans la fosse où des centaines de traders s'agitent pour acheter ou vendre des titres, c'est le soulagement. Certains lèvent même le poing en signe de victoire. Aujourd'hui, les affaires ont été bonnes. À la sortie dans la rue, les traders pressent le pas. Ils tentent d'échapper aux dizaines de journalistes qui les traquent depuis plusieurs semaines, depuis que la bourse est en pleine tempête. L'un d'entre eux lâche tout de même quelques mots.
1000 points tous les jours, qu'est-ce que vous en dites? N'importe qui sourirait après ça. On espère que demain ça sera pareil, mais bon, ça va être dur car on a pas mal acheté aujourd'hui.
Et l'euphorie est de courte durée. Dès le lendemain, la bourse de New York rechute. À la sortie de Wall Street, les visages sont fermés.
No comment.
Pas de commentaire, dit un trader. Ce n'est bon pour personne, il faut stabiliser les choses, dit un autre. Depuis la faillite de la banque Lehman Brothers le mois dernier et le sauvetage in extremis de plusieurs institutions financières, c'est la panique. Personne ne se fait plus confiance, les investisseurs freinent leurs transactions et les marchés boursiers plongent. La semaine dernière, Wall Street a chuté de plus de 20%.
C'est tout à fait ça. Ouais. Ah, si tu vends les 12, ils ont traité à 2,90.
Nous sommes en haut d'un immeuble cossu de New York, près de Park Avenue. Mescart est une société française de gestion de fortune.
Ça te permet de, comment dire, d'assurer le gain de 20%.
Grégory Volokhin y conseille des clients, essentiellement des banques et des assurances européennes, dans l'achat d'actions aux États-Unis. La semaine dernière, dans l'univers de la finance, il y avait comme une ambiance de fin du monde. Alors comment l'a-t-il vécu?
Je l'ai vécu en ayant peur. Peur de voir que l'irrationnel l'emportera ou l'emporterait sur la raison. Donc tout le monde était dans une situation vraiment d'angoisse. Hein. C'était, je crois, la semaine la plus angoissante que j'ai vécue professionnellement. Une chose qu'il faut vraiment bien analyser, c'est que des mouvements aussi brutaux de baisse touchent tout le monde. Hein. Aux États-Unis, tout le monde est investi dans le marché, en passant par des caisses de retraite, ces plans de pension. Donc tout le monde a senti, disons, cette baisse de 25% des indices. Et surtout, l'autre chose, c'est qu'on peut vraiment prévoir, et on le savait déjà qu'on aurait une récession, mais là, cette récession, elle risque d'être plus longue, plus profonde, plus dure que ce qu'on aurait pu encore imaginer il y a 2 ou 3 mois.
C'était donc un reportage de Muriel Paradon tiré des archives de RFI, réalisé en octobre 2008, au moment de la grande crise financière. On est dans Écho d'ici, Écho d'ailleurs, une émission intitulée « Les mathématiques, la finance et le prix des choses » avec 3 invités, Nicolas Boulot, Christian Walter et Didier Marteau. Didier Marteau, ce reportage vous fait réagir?
Oui, absolument. En fait, je voulais articuler le titre de l'émission et le troisième mot, le prix des choses, avec la crise financière. Parce que je pense que cette crise de 2007-2008 a des origines microéconomiques, beaucoup plus que macro. Et je reviens en fait à l'évaluation des portefeuilles d'actifs des banques. Je suis très concret, mais c'est extrêmement important. Je vous ai dit tout à l'heure, les banques doivent valoriser leur portefeuille sur la base du prix de marché. Mais quand on entend ici que les prix ont baissé de 20%, on oublie de dire qu'en fait, le volume de transactions a aussi beaucoup baissé. Dans des marchés qui s'effondrent, vous avez un effondrement des prix, mais aussi, on le dit beaucoup moins souvent, du volume des transactions. Et en fait, on va valoriser une action par un prix qui est associé à un volume de transactions très faible par rapport au stock d'émissions.
Vous voulez dire que le prix n'est pas représentatif de la valeur réelle?
Je veux dire que le prix de marché est représentatif, en fait, d'un volume qui a été échangé à ce prix et non pas du stock. Sachez par exemple que hier, EDF valait 12 euros. Il y a eu, à 12 euros, 0,003%, donc 3 millièmes du stock de capital, qui représente d'ailleurs que 10%. Alors, je voudrais juste dire une chose pour terminer. Et on va arriver à la crise. Les banques ont donc valorisé durant cette crise, quand vous aviez moins 20%, vous devez valoriser votre portefeuille d'actions de moins 20%. Or, en fait, vous allez valoriser tout votre stock, alors qu'à moins 20, il y a eu juste un petit flux. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que votre résultat va être dégradé. Si votre résultat est dégradé, les fonds propres de la banque sont dégradés. Et si les fonds propres sont dégradés, Christian Walter parlait tout à l'heure des normes prudentielles Bâle 3, la banque va être obligée soit de se recapitaliser, parce qu'elle a pas assez de fonds propres, soit de revendre des actifs. Et si elle vend des actifs, le prix va continuer de baisser, de moins 20 on va arriver à moins 25, les résultats se dégrader, et les fonds propres baisser, etc. C'est ce qu'on appelle la procyclicité des normes comptables, et je crois que c'est extrêmement important de ne pas oublier qu'un prix de marché, c'est un prix qui n'est légitime que pour un volume fini de transactions qui peut être infinitésimale par rapport au stock.
Christian Walter, dans un livre que vous avez publié peu après cette crise de 2008, c'était en 2009 ce livre, vous dites que les économistes utilisaient à l'époque des modèles mathématiques obsolètes et que c'est la cause de la crise.
Oui, ce qu'on a voulu dire et ce qu'on essaie de dire à la chaire éthique et finance, c'est que sur une réalité dont on parlait juste avant, l'arbitrage ou autre, on a posé une théorie mathématique du probable. Et que cette manière de considérer le probable était, pour diverses raisons, peut-être vraie dans certains domaines de la physique, mais en tout cas pas pour les objets
sur lesquels on a voulu la faire porter. Ça veut dire que le probable, le hasard dans les systèmes financiers ne répond pas aux mêmes règles que le hasard dans, par exemple, l'écoulement des fleuves ou des rivières. Et lorsqu'on a voulu transposer à la finance des propriétés ou des formules ou des modèles issus du hasard en physique, on n'a pas fait attention à la validité de ces modèles sur des questions économiques et financières.
Mais c'est totalement anti-scientifique.
Et de là, c'est ce qu'on dit, et de là, en fait, est venu, je dis pas que c'est la source, une cause importante de la crise, c'est qu'effectivement, les modèles du probable ont dysfonctionné par rapport à ce que, effectivement, il se passait
dans le
sur
réel.
Les marchés, dans le réel.
Oui, Nicolas Boulou.
Oui, je suis pas en désaccord avec cette analyse. Simplement, je pense que si notre conversation continue à être technique, si vous voulez, on va peut-être perdre un certain nombre de, je dirais, il y a l'analyse de la situation qui, évidemment, nos auditeurs peuvent comprendre que la situation est très complexe, et notamment l'usage dans les franges du métier de la finance de ces mathématiques pose problème, et même dans le fonctionnement des banques, etc. Mais les idées, l'analyse conclut sur des faits simples. Il y a de la volatilité. Les marchés conduisent de façon top-down l'économie mondiale et il
top
s'agit...
Top-down, ça veut dire du haut vers le bas.
Du haut vers le bas. C'est, hein, les marchés, pour que ce soit des matières premières, des ressources épuisables, des marchés sur les devises, les marchés sur les actions, conduisent l'économie parce qu'ils sont la référence de tout le monde. Et je crois qu'il y a deux idées fortes qu'il faut conserver, c'est qu'il s'agite. Il s'agit d'autant plus que l'incertitude est plus grande et que les inquiétudes sont plus grandes. Et ce faisant, et ça c'est la portée de l'analyse que je fais dans ce livre, ce faisant, ils conduisent l'économie d'une façon complètement différente de ce que le libéralisme souhaitait dans sa structuration après la Seconde Guerre mondiale. C'est ça le point fondamental, à mon avis.
Est-ce que vous pouvez développer ça ?
Eh bien, si vous voulez, souvenez-vous de la situation juste après la Seconde Guerre mondiale, il y avait les deux blocs. D'un côté, l'économie planifiée, et de l'autre côté, ce qu'on appelait le monde libre. Et il est vrai qu'à cette époque-là, beaucoup d'économistes et beaucoup d'hommes politiques considéraient qu'il fallait rationaliser l'économie. Et d'ailleurs, on a entendu le mot « rationalité » tout à l'heure dans le reportage. Rationaliser, parce qu'on pensait qu'en effet, les actions des différents agents partaient peut-être dans tous les sens, et même la France faisait une politique de planification incitative, n'est-ce pas ? C'était l'époque de Chaban-Delmas, etc.
Dans les années 70.
Oui.
Voilà.
Encore dans les années 70. Eh bien, il y a un texte fondamental qui a été rédigé, au point, je pense qu'il faut faire référence, par Friedrich Hayek en 1945, où précisément...
L'économiste, prix Nobel d'économie plus tard. Voilà.
Où il a pris la défense du libéralisme et de l'économie non planifiée, avec des idées extrêmement intelligentes et intéressantes, qui consistaient à dire, l'intelligence, elle est où ? Et elle est répartie parmi les acteurs, le chef d'entreprise, c'est lui qui sait ses possibilités d'action, c'est lui qui a des machines, c'est lui qui a des ouvriers, c'est lui qui a emprunté. Et en fait, ce qui compte, c'est le signal prix, c'est-à-dire l'évolution des prix dont il pourra se servir pour piloter son affaire. C'est extrêmement intelligent. Et donc, il n'y a pas besoin d'une intelligence supérieure qui comprenne toute l'économie. Il suffit qu'il y ait un signal prix.
On n'a pas besoin de mathématiques.
Et donc, ce que disait Hayek, c'est que le signal prix était absolument fondamental. L'évolution tendancielle des prix, c'est ça qui fait marcher l'économie de façon intelligente. Et ce que je dis, c'est que ce signal prix, il est perdu par les marchés financiers.
Juste une remarque, mais c'est un très bon exemple de ce dont on est en train de parler. On parle de volatilité. Bon, c'est un mot qu'on voit dans les journaux, dont on discute. On est pour, on est contre, on dit il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. La volatilité, qu'est-ce que c'est ? C'est un objet mathématique. Je pose la question. Est-ce que l'objet mathématique qu'on appelle volatilité n'est pas déjà à l'origine du problème que l'on croit poser en observant qu'il y en a beaucoup ? Autrement dit, je déplace mon regard de ce sur quoi porte l'analyse mathématique à l'objet lui-même en disant peut-être que l'objet mathématique qu'on appelle volatilité serait une source de volatilité. Autrement dit, il y a un questionnement à avoir de la manière dont les mathématiques, en tant qu'acte, en tant que puissance du verbe, ont une action sur le monde. Et là, on est bien dans le cœur du titre de l'émission. On parle de volatilité, mais on ne se demande pas si avoir introduit une notion comme la volatilité n'a pas été en soi dangereux pour ensuite parler de ce que la notion voulait pointer.
C'est dangereux de nommer les choses
Pas de les nommer, de créer quelque chose qu'on va mesurer avec des mathématiques peut-être dangereuses pour faire apparaître des phénomènes qu'on veut mesurer.
Nicolas Boulot, vous dites dans votre livre qu'aucun homme politique ne comprend ce qui se passe sur les marchés à cause de l'importance des maths.
Oui.
Les mathématiciens, c'est des ennemis de la démocratie?
Vous me provoquez. Les mathématiciens ne sont pas responsables de ce qui se passe en finance. Il y a des gens qui utilisent les mathématiques et qui sont des gens... Bon, ce monde de la finance est un monde où il y a énormément de matières grises, et ces gens utilisent les mathématiques à disposition, comme on toujours fait. D'ailleurs, toutes les pratiques, toutes les sciences, on utilise toujours les mathématiques qui sont à disposition. Ceci étant, je peux me permettre de rajouter que parfois, les économistes prennent dans les mathématiques ce qui les arrange. Hein, et ça, j'aurais beaucoup de citations à faire à ce sujet. Et il est vrai que certaines mathématiques qui sont un peu plus fines, qui les dérangent, ils n'en parlent pas beaucoup. Là où j'ai une différence avec Christian Walter quand il vient de s'exprimer, c'est que moi, je considère les marchés tels qu'ils sont. La volatilité, c'est simplement une description de ce qui se passe. Il peut y avoir des bulles de volatilité. La volatilité inquiétant de nouveau et finalement encourageant la volatilité. Le point que je soulève, c'est que cette absence de tendance des marchés financiers n'est pas... On n'a pas pallié cette difficulté avec les marchés dérivés. On a remplacé la tendance par des assurances sur les prix, mais en fait, du coup, et c'est la thèse forte de ce livre...
De ce livre, Le mensonge de la finance, aux éditions de l'Atelier, dont vous êtes l'auteur.
Les marchés financiers, la finance, ne voient plus les problèmes environnementaux et en particulier l'épuisement des ressources. La rareté n'est plus visible sur les marchés.
Alors... Didier Marteau, je note que vous voulez la parole, mais d'abord on va partir au Costa Rica avec un reportage signé Léa Morillon. Keynes disait « Les prix, c'est un concours de beauté
». Oui, c'est très célèbre. Hein?
Mais ces producteurs recherchent la juste rémunération d'une production, les producteurs de café du Costa Rica. Ils le font parfois à travers un système qui s'appelle le commerce équitable. Les producteurs de café et d'Amérique centrale figurent parmi les principaux bénéficiaires de ce système, et surtout au Costa Rica, où ils sont plus de 10 000 à avoir recours à ce commerce équitable. Mais cette certification, puisqu'il s'agit de cela, permet-elle de garantir un prix et une rémunération plus juste que les prix du marché? Nous rejoignons Léa Morillon à Saint-Rosé du Costa Rica dans un reportage écodissier Codailleurs.
Au Costa Rica, la culture du café dépend principalement de petits producteurs. 92% d'entre eux détiennent moins de 5 hectares de plantation. La majorité travaille avec des coopératives chargées de la transformation du fruit. Certaines d'entre elles ont opté pour la certification commerce équitable, telle que Copellano Bonito dans la région sud du Costa Rica. Pour Jorge Ortiz, l'un des associés, le commerce équitable est la seule manière de maintenir l'activité.
Le Costa Rica est un pays où les coûts de production sont assez élevés. Je crois que ce qu'il y a de mieux avec le commerce équitable, c'est qu'au moins le revenu minimum que reçoit le producteur lui permet de rester avec sa famille, rester dans sa ferme et ne pas quitter la campagne, même si on ne peut pas contrôler toutes les variables. On voudrait par exemple que le marché international reconnaisse vraiment les prix réels du café.
Copellano Bonito fait partie d'un consortium de coopératives commerce équitable nommé Co-Café. Il se charge de l'exportation du produit. Si pour sa responsable qualité sous un achat-cône, le commerce équitable n'est pas réellement une manière de lutter contre la sphère financière, la certification permet tout de même de se prémunir contre les aléas boursiers.
Le café non-commerce équitable dépend bien sûr de la bourse, mais la règle du commerce équitable, c'est la stabilité du prix à 140 $. Il fut un temps où le cours dépassait les 140 $. Là, c'était tout bénef. On vendait à 170, 180, plus les bonus. On arrivait à un bien meilleur prix. Donc en fait, le commerce équitable, c'est une forme d'assurance. Peu importe ce qu'il se passe à la bourse de New York. Il peut y avoir une bombe là-bas, à New York, que le prix sera toujours de 140 $.
Une philosophie, un mouvement ou un marché, chacun peut voir le commerce équitable à sa façon. Carlos Batalla est l'un des 60 000 petits producteurs de café du Costa Rica, mais pour lui, pas question de passer par une coopérative ou quelconque forme de certification. La garantie de son salaire passe par son indépendance.
Je ne crois pas aux certifications. Elles payent un peu plus, 10, 15, jusqu'à 20% de plus pour leurs fruits. Mais le fruit vaut 500% de plus. Il y a beaucoup d'intermédiaires qui font d'énormes bénéfices. Et le producteur, même celui avec la certification commerce équitable, il ne reçoit pas une rémunération suffisante par rapport à la valeur réelle de cette matière première.
Exportant lui-même sa production au Japon et en Corée du Sud, Carlos Batalla vend le quintal de café entre 400 et 500 dollars, soit 4 fois plus que le cours actuel.
Reportage signé Léa Morillon dans Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur RFI. Nous parlons du rôle des mathématiques sur les marchés financiers et dans la définition du prix des choses ou des matières premières. Trois invités, Didier Marteau, Nicolas Boulot et Christian Walter. Didier Marteau, vous vouliez la parole. Ce reportage, est-ce qu'il vous fait réagir?
En fait, je voulais juste dire un mot auparavant sur la volatilité, qui est elle-même d'ailleurs un actif très volatile. On parle de volatilité et de la volatilité. Pour dire que la volatilité, en fait, alimente la volatilité. Je voudrais l'illustrer par un simple exemple. Si moi je suis de nouveau un fabricant de farine et que je fabrique de la farine avec du blé, en fait je peux soit acheter à terme la farine, soit acheter le droit d'acheter le blé à un prix fixé aujourd'hui. Ça s'appelle une option sur le blé. J'achète le droit d'acheter le blé à 160 euros tonne sur les 3 prochains mois qui viennent. Celui qui me vend cette option, qui est une coopérative par exemple ou une banque, va se couvrir puisque elle m'a vendu le droit que je lui achète à 160. Elle court donc le risque que le cours monte. Et donc elle va acheter le blé, une partie du blé pour se couvrir. Elle va faire un calcul de probabilité, elle va dire
donc des maths.
Un peu de maths. Oui, d'ailleurs c'est exactement, enfin c'est le principe de base de l'évaluation des options, c'est la couverture précisément. Donc imaginons qu'elle achète 50%, si je lui achète le droit de lui acheter 1000 tonnes, elle dit il y a 50% de chance que le prix monte pour être simple et j'achète 500 tonnes. Mais si le prix monte, le vendeur de l'option, la banque ou la coopérative, va réajuster sa couverture. Et en réajustant, elle va acheter. Donc si le prix monte, elle rachète. Et si elle rachète, le prix monte. Et si le prix monte, elle va devoir racheter parce que la probabilité qu'on lui achète ce blé au prix initial va augmenter. Et à l'inverse, si le prix baisse, eh bien, le prix va baisser. Il y a des études qui montrent que la création de marchés d'options à augmenter la volatilité des marchés sous-jacents.
Nicolas Boulot.
Bon, c'est une grande question qu'on s'était posée dès l'origine des marchés dérivés, des produits dérivés. Est-ce que les produits dérivés vont augmenter ou vont calmer la volatilité? En fait, ce qu'on voit, c'est que depuis les années 70, la volatilité n'a pas cessé d'augmenter. Et les produits dérivés eux-mêmes ont des prix extrêmement agités, n'est-ce pas? Et alors, le point fondamental dans tout ça, c'est que l'agitation est telle que la prévision n'est plus possible. Les prix, je disais de façon top-down, c'est-à-dire d'en haut vers le bas, les prix des marchés sont les prix des cargos qui deviennent les prix des grossistes. Et le petit entrepreneur local, pour choisir entre l'augmentation de son cheptel ou bien construction d'un hangar ou planter des arbres ou essayer d'accroître sa surface, eh bien, il n'a aucun élément. La seule chose qu'il puisse faire, c'est acheter des produits dérivés pour se couvrir. Mais on ne peut pas piloter une entreprise avec des assurances. Et donc le signal prix est perdu, et en particulier d'un point de vue environnemental, eh bien la rareté ne se voit plus. C'est ça la grande carence.
Juste pour préciser, on parle des mathématiques et de leur rôle dans la finance et dans l'économie. Je pense qu'il faut avoir deux choses en tête. Soit les mathématiques sont descriptives, et là on mesure des choses, ce qui se passe souvent en ingénierie ou en physique. Soit, et ce n'est pas ce que je pense et que j'ai écrit dans mes livres, elles sont performatives. Ça veut dire que les mathématiques sont un peu comme un langage ou une parole, et sont un acte de parole qui va avoir une influence sur les choses. Les mathématiques en tant que langage font des choses avec des mots, même si les mots sont mathématiques. Et dans ces cas-là, on voit qu'on n'est pas en train de mesurer des choses, mais de créer ce que l'on croit mesurer. En ce sens...
La nuance est fine.
Voilà. Mais l'importante, car du coup ça montre, je rejoins Nicolas Boulot, que les politiques devraient comprendre qu'un choix mathématique, c'est en fait un choix éthique. Si on comprend que les mathématiques ne décrivent pas, mais mettent en forme comme des actes de parole, on comprend que choisir un modèle mathématique, c'est choisir une mise en forme sociétale.
Mais vous croyez qu'il y a des hommes politiques qui choisissent des modèles mathématiques ?
Ce que je crois, c'est qu'il sera important que les politiques comprennent que les mathématiques ne sont pas descriptives selon l'usage qu'on en fait, comme un marteau,
mais performative, c'est plutôt comme un gant de jeu vidéo. Et que les mathématiques, en tant que performatives, performent, mettent en forme le monde social de manière assez réelle.
C'est-à-dire que les équations dictent la réalité qui va naître.
Ce n'est pas prescriptif, ça c'est ce que vous dites, ce serait prescriptif, ouvrir une porte, fermer une fenêtre. C'est performatif, ça veut dire que l'on construit un monde, comme dans Matrix, avec des équations qui se retrouvent dans des traces matérielles, comme des ordinateurs, comme des logiciels.
Nicolas Boulot.
Oui, mais je suis d'accord, mais avec quand même une très forte nuance. C'est que si les marchés spéculatifs existent, de toute façon, qui est des mathématiques très savantes ou pas, il y aura de l'agitation et de la volatilité à cause même de la spéculation. Et là, si vous voulez, je voudrais revenir, parce que souvent dans cette émission, vous avez évoqué ce grand problème de la malédiction des matières premières. Dans les pays en développement, il semblerait que parfois, ce sont les pays où il y a de la matière première, où l'économie a du mal à se développer. Alors là, je crois que précisément, le fait que les marchés financiers pilotent l'économie mondiale à l'aveuglette fait penser véritablement à un grave problème structurel. Vous vous souvenez, la Banque mondiale et le FMI, dans les années 70-80, essayaient de dire on va aider les pays en développement à condition qu'il y ait des modifications structurelles. Mais maintenant, c'est l'inverse qui se passe. On peut se demander si, d'un point de vue structurel, les marchés financiers sont la bonne façon de coordonner l'économie, parce qu'ils cachent la réalité des raretés. Et donc, pour se détourner du pétrole, pour une transition vers la fin des ressources, eh bien, quels sont les indicateurs? Il faut les construire indépendamment des marchés financiers. Il faut construire à côté. Alors, parfois.
Mais par exemple, Nicolas Boulot, pour dire un mot de ce reportage de Léa Morillon au Costa Rica sur le commerce équitable, est-ce que le recours à ce commerce équitable volontariste pourrait être une solution pour revenir vers du réel au détriment des modèles financiers qui sont au cœur des marchés à terme et des modèles et des mécanismes qui déterminent les prix du café sur les marchés mondiaux?
Je pense que ça peut être une voie parmi d'autres. Je pense que le problème est si grave de la mutation écologique et énergétique. Je pense que effectivement tous les moyens qui permettent de voir la rareté, de voir les détournements de fonctionnement énergétique qui sont à faire, sont à prendre en compte. Et à cet égard, je fais partie des gens qui considèrent que modifier le fonctionnement des marchés financiers en assagissant, éventuellement en supprimant ou en diminuant le rôle des maths, etc. Pourquoi pas? Mais ça ne changera pas le grave problème qui est le fait que l'économie maintenant est pilotée par des instruments très savants mais qui ne voient pas la rareté.
C'était le mot de la fin de cette émission qui est maintenant terminée. Merci à vous trois, Nicolas Boulot, Didier Marteau, Christian Walter, d'y avoir participé. Les informations relatives à vos parcours et à vos livres sont sur la page internet de l'émission sur le site www.rfi.fr où vous pouvez nous réécouter. Vous pouvez aussi le faire sur l'application Pure Radio et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.